Ça va? Moi, j'ai trop aimé ce moment et je pense que ça, en fait, ça me touche de vraiment penser que ce si grand Dieu, qu'on ne peut même pas imaginer, on peut peut-être avoir le cosmos dans notre tête, en fait, ça ne suffit même pas à penser à sa grandeur, que ce grand Dieu, en fait, il est là, dans cette petite église du tabernacle, sur nos chaises bleues, il est là. Dans ma vie, avec mes galères, quand je suis fatiguée et moche, il est là. Enfin, c'est quand même incroyable quoi, qu'il nous fasse l'honneur de sa présence dans notre petitesse. Et pour le coup, c'est vraiment un message central dans la fête de Soukhot, la fête des tentes. Cette idée que on est tout petit, on est des petites tentes fragiles, mais Dieu est là dans cette petite tente. Alors, merci Philippe. Je vais boire. Juste avant de commencer, en fait, je voulais vous raconter un petit témoignage. Je suis allée au Bénin. Je suis partie 10 jours au Bénin avec mon mari Maël, qui est d'origine béninoise et qui a vécu 5 ans au Bénin pendant son adolescence. Donc c'était aussi une partie de sa vie que j'ai découvert en allant au Bénin. Peut-être que ce passage, il ne faudra pas qu'il soit en ligne parce que il y a des trucs un peu tendus. D'ailleurs, je regarde s'il y a des plus jeunes en âge de comprendre. Le Bénin, c'est un pays hyper réputé pour, peut-être ça vous parle, la sorcellerie et le vaudou. Alors, c'est deux choses différentes. Le vaudou, c'est censé, parce que tout ça, ça vient de la même source, c'est censé être de la magie blanche qui est faite pour faire du bien. Ça veut dire que tu vas faire des sacrifices d'animaux, des incantations, tu vas te priver de certaines choses pour qu'en échange, des esprits vaudous protègent ta famille, tes enfants, ta santé, voilà. Et la sorcellerie, ça, c'est plus agressif, c'est-à-dire qu'on veut vraiment nuire aux gens et faire du mal. Bon, j'espère que ça choque personne. Dites-vous juste que peut-être vous côtoyez pas ça dans votre vie, mais là-bas, c'est normal, en fait, presque. Enfin, vraiment, tout le monde y croit et on vit avec ça. Et c'est très rare de trouver des gens qui soient pas impliqués dans l'un ou dans l'autre. Et même dans la famille de Maël, en fait, dans ma famille, il y a des gens... Enfin, Maël a même été consacré au vaudou plus jeune. Il y a un temple vaudou chez ses parents. Dans sa famille, il y a des sorcières qui nous veulent du mal. Enfin, bon, bref, c'est vraiment un truc un peu sérieux. Bon, j'espère que ça va. et du coup, c'est vraiment présent les vaudous. Donc, il y a un couvent pour les vaudous dans la maison au Bénin à Cotonou. Il y a une fois un gris-gris qui avait été enterré dans le jardin pour qu'il y ait une malédiction quand on passe dessus, on est mal quelque part. Il y a eu un matin quand on était au Bénin, une cérémonie qui a été faite pour, ils sont 3 garçons dans sa famille, donc pour les 3 garçons où on sacrifie une poule, enfin bref, c'est sérieux, c'est concret, c'est vraiment là et c'est grave en fait, enfin je veux dire, c'est pas des petits jeux quoi, il y a du sang, il y a des vrais trucs qui se passent et derrière il y a des vrais gens à qui ça peut coûter la santé, la vie, enfin vraiment c'est la galère. Il y a même des petites statues sur la table principale chez la famille de Maël qui représente les anciens esprits, enfin bon bref, et ces petites statuettes, tu vois, moi je les regarde, elles me regardent et moi au début j'étais pas du tout à l'aise avec tout ça, enfin je me dis mais comment je vais faire, je vais y penser constamment, je vais avoir peur. C'est déjà présent dans la maison à Paris chez les parents de Maël, mais là encore plus au Bénin, le couvent et tout, enfin j'avais peur d'être constamment préoccupée par ça et de me sentir fragile et d'être dans le combat et de pas pouvoir faire mes vacances et ma découverte culturelle et tout. Et en fait quand ces petites statuettes elles me regardent, en fait, elles savent qu'il y a un boss et que le boss, il est au-dessus de ces petites statuettes, qu'il est au-dessus de ce gris-gris et du couvent. Et c'est intéressant parce que même les esprits méchants, enfin les vaudous et les gens qui font de la sorcellerie et tout, en fait, même eux, ils savent qu'il y en a un qui est plus grand, en fait. quelque part, ça peut brouiller les pistes parce qu'on pourrait presque... Enfin, il y a des catholiques qui font du vaudou, par exemple, au Bénin. Donc ça peut faire des mélanges et tout. Mais bref, en tout cas, spirituellement, ces esprits, ils ont bien conscience que c'est pas eux qui dirigent le monde, qui sont là en train de faire des petits trucs et tout, des petits pactes, des petits soins, des petits machins, mais qu'il y a un vrai grand Dieu qui gère tout ça. Et même Maëlle, dans son témoignage, si un jour vous avez l'occasion de l'entendre, il raconte que les vaudous lui ont dit un jour, et même une sorcière lui a dit un jour, qu'il n'y a rien de plus fort que le sang de Jésus. Voilà quoi, ils sont au courant de la vérité. Et un jour, la mère de Maëlle, elle avait fait une cérémonie. Il y a trop de mélange là-bas, mais genre, ça s'appelle le christianisme céleste. Donc c'est bon. Bon, vas-y, on s'en fiche, c'est pas grave. En tout cas, ils font une cérémonie pour nous, et, enfin pour tous les enfants. Et la mère de Maëlle, son intention, c'est de nous protéger, comme nous, on pourrait prier pour des gens, tu vois. C'est de demander, voilà, est-ce que mes enfants sont en danger par rapport aux tantes sorcières et tout. Du coup, la personne qui consulte, elle dit, tel fils, voilà ce qu'il faut faire pour le protéger, tel fils, voilà ce qu'il faut faire pour le protéger. Et là, quand ça vient à Maëlle et Anna, les gens qui consultent, ils disent, ah non, eux, il y a besoin de rien faire. Ah bon, pourquoi ? En fait, il y a un anneau de feu. Ça m'émeut trop. Il y a un anneau de feu autour de nous. C'est trop bien. Il y a un anneau de feu autour de Anna et Maëlle qui les protège et qui est suffisant. Et cet anneau de feu, c'est l'alliance avec le boss. Donc, pendant ce voyage, en fait, finalement, je ne me suis pas sentie... Tout ça, c'était réel, c'était concret, la cérémonie, les statues, enfin tout. Mais on a été portés, protégés, on priait le sang de Jésus, et je crois que j'ai jamais autant eu conscience que le sang de Jésus était nécessaire. Là, c'est pas un délire mystique ou un chant, non. Enfin, là, c'est juste, c'est obligé, c'est le vaccin, sinon tu reviens pas, enfin, je sais pas, tu vois. Donc, on priait le sang de Jésus. Et voilà quoi, et on a vraiment eu la grâce d'être porté au milieu de tous ces trucs. Et on a vécu notre super séjour et on n'a rien eu de négatif, d'accident, de je sais pas quoi. Enfin voilà. Pourtant, il y avait de l'opposition. Mais cet anneau de feu, il est plus fort. Voilà, donc merci Jésus pour ton anneau de feu. Alors, peut-être vous vous demandez pourquoi il y a une tente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, pour celles qui étaient là, on avait fait une cabane. Et là, je n'ai pas eu le temps, du coup, j'ai sorti une tente de seconde, que j'ai jetée tout à l'heure. C'est une cabane express. Mais voilà, ça représente la cabane, et c'est un symbole de la fête des cabanes. Alors, je sais que vous avez déjà parlé de Rosh Hashanah. J'étais pas là, j'étais au Bénin. Vous avez parlé de Yom Kippour, avec les 10 jours terribles et la repentance et le grand pardon accordé. Et la suite logique après, c'est Soukhot, une fête de joie, où du coup, on entre dans cette nouvelle année juive, enfin voilà, spirituelle, on pourrait dire, avec la joie et la fête, en fait, qui vient de Dieu. Donc, tout ça s'inscrit dans un ensemble de fêtes, si tu veux bien, Romain, mettre celle d'après, avec du coup comme des rendez-vous tout au long de l'année. C'est pas des rendez-vous religieux ou judaïsants pour j'en sais rien. Histoire d'eux pour faire comme c'est écrit ou je sais pas quoi. C'est vraiment des occasions de rencontrer Dieu, de se souvenir de notre histoire et de l'intégrer avec nos sens aussi. Par exemple, vous vous souvenez, à Pessah, à Pâques, on a mangé des herbes amères pour que dans ta bouche, tu sentes que l'esclavage, c'était pas bon. On a bu le sel, enfin l'eau salée, pour nous souvenir des larmes des Égyptiens, avec qui on veut aussi compatir, d'avoir perdu leur fils aîné et tout ça. Et c'est ça que je trouve génial dans les fêtes de l'Éternel, c'est qu'il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper concrets pour que tu puisses vivre dans ton quotidien et dans, on va dire, les trois dimensions de ton être, une rencontre avec Dieu. Je sais pas, moi j'aime trop. Enfin, on prend la scène, tu manges et en même temps, enfin c'est plus que symbolique, c'est aussi enfin vivant quoi. Tu vois, il y a vraiment de la vie dans tous ces gestes. Et donc ben voilà, l'année, donc c'est un résumé. Après il y a les grandes fêtes, les plus petites fêtes. Enfin, en tout cas, c'est des occasions chacune de rencontrer Dieu, de vivre des choses en famille aussi. Les enfants sont hyper intégrés aux fêtes pour ben voilà quoi, rencontrer Dieu et tout. Et à Sukkot, du coup, il y a plusieurs choses qu'on peut vivre comme ça pour vraiment rencontrer Dieu. Ah oui, je voulais dire que ces fêtes, elles ont comme plusieurs niveaux de lecture. Elles racontent une histoire, je sais pas, pour Pâques, la traversée de la mer Rouge, à Shavuot, le don de la Torah, enfin tout ça, elles racontent une histoire passée. Pour nous, chrétiens, elles ont aussi une symbolique parce que Jésus, il a accompli certaines Pâques où on le retrouve, en fait, certaines fêtes, on le retrouve dans tout, en fait. Elle nous parle de lui. Mais il y a aussi même presque un troisième niveau de lecture qui nous parle de l'avenir. Il y a des fêtes prophétiques qui ne sont pas encore accomplies ou qui peuvent nous raconter les événements qui vont venir et tout. Et bon, c'est dur de tout comprendre d'un coup. Il faut y aller année par année. Et quand on est né là-dedans, genre juif messianique ou je ne sais pas quoi, en fait, on a vécu ça depuis qu'on est tout petit. Comme nous, on fête Noël, ou comme nous, on prend la Sainte Cène. Enfin, c'est des trucs qui sont intégrés. Et du coup, chaque année, tu comprends un sens un petit peu différent, tu vois, t'es touché par quelque chose. Donc, quand on connaît pas, en fait, il y a une piscine de trucs à comprendre, mais on y va morceau par morceau. Et du coup, je vous propose un petit morceau pour cette année, mais il y a évidemment plus que ce petit morceau. Alors, Sukkot, si tu veux bien, Romain, mettre la suite. Donc c'est une fête qui est que Dieu demande ou propose à son peuple de fêter. C'est dans ces deux passages-là que vous trouvez, enfin dans ces deux références que vous trouvez l'ordonnance, comment on la fête et pourquoi on la fête. Je vais le lire, je pense quand même que ça peut être bien, comme ça on est tous sur la même longueur d'onde. L'Éternel parla à Moïse, donc là je lis Lévitique, et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, les saints rendez-vous. Que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations chaque jour, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire des dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches, des palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. C'est la fête pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc le but de cette fête, c'est de se rappeler que pendant la traversée du désert, le peuple de Dieu a vécu dans des tentes. Et pas que ça, il y a tout ce qui va avec. La nuée qui les guide, le feu, la manne. Enfin, il y a plein de miracles autour de ces tentes et cette vie-là un peu de bricolage dans le désert. Cette fête, elle a plusieurs noms. Donc, elle s'appelle la fête des tentes, des cabanes, des tabernacles. Mais elle s'appelle aussi la fête. Toutes les fêtes, elles s'appellent la fête de quelque chose, de ceci, de cela. Et celle-ci, un de ces noms, c'est juste la fête. Donc là, t'as pas le choix, t'es obligé de te réjouir. C'est la fête, the fête, ok? Tu vois, c'est obligés de se réjouir. Et en Israël, c'est un truc de malade. Vraiment, les gens, ils dansent, ils chantent. Enfin, c'est la bringue pendant 7 jours, quoi. Tu peux mettre la slide d'après Romain, s'il te plaît. Alors, il y a plusieurs choses qui sont, plusieurs symboles et du coup expériences qui sont importantes à Soukhot. Tu peux mettre celle d'après. La première, c'est il y a des sacrifices. On voit pas trop. C'est un prêtre qui égorge un taureau. Il y en a beaucoup, en fait. En tout, il y a 14 béliers, agneaux, 2 béliers et 70 bouvillons. Vous connaissez le mot bouvillon ? Un bouvillon, c'est un petit bœuf. Enfin, j'ai regardé. Je ne savais pas. Et ces 70, ils sont censés représenter les 70 nations. Enfin, il y a quelque chose dans Soukhot qui parle des nations. Mais ça, comme je disais avec la piscine, là, ben, ce sera pour une autre année, parce que même moi, je n'ai pas encore trop compris. Il y a sûrement des gens ici qui sont calés, mais moi, pour l'instant, je n'ai pas compris le truc. Bref, en tout cas, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a une deuxième chose, tu peux mettre celle d'après, c'est le puisage de l'eau. Donc, il y a une cérémonie. Tous les jours, il y a un prêtre pendant ces 7 jours, et peut-être même 8, enfin, parce que du coup, il y a un 8e jour de repos, mais je ne sais pas si c'est pendant les 7 ou les 8. Bref, il y a un prêtre qui part du temple à Jérusalem pour aller au bassin de Siloé et prendre de l'eau dans le bassin de Siloé. Il est accompagné par un cortège de gens qui chantent, des psaumes et tout ça. Et ensuite, on retourne au temple, et dans un des bassins du lieu saint, il verse l'eau qu'il a été récupérée à Siloé. Et pendant ce temps, il y a la foule qui agite des palmiers et tout ça. Donc, c'est une cérémonie tous les jours. Le but, le symbole, c'est prier Dieu et remercier Dieu pour la pluie qui vient. Toutes les fêtes, elles sont presque liées à quelque chose d'agricole, enfin, au temps, aux saisons et tout. Et celle-ci, du coup, elle est avant la saison des pluies, on a récolté déjà et tout. Et du coup, on remercie Dieu pour la pluie qui vient. Et cette eau, c'est l'eau de la bénédiction, l'eau de l'abondance qui, après, va nous donner toute cette richesse. Et donc, tous les jours, voilà, merci Dieu pour la pluie qui vient, qui va bénir nos vies, nous donner à manger, nous donner de l'abondance. Il y a un autre symbole, c'est les lampes à huile. Les femmes allument des lampes à huile et les positionnent partout sur le temple. C'est genre la fête des lumières version Soukhot. Et du coup, l'idée, c'était que le temple puisse être vu de loin et que la lumière de cet endroit où réside la présence de Dieu soit vue par tous. Ah ouais, elle est là, la présence de Dieu. Voilà, c'est donné aux femmes de faire ça. Il y a un quatrième truc, c'est Simchat Torah. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Le dernier jour de la fête, il se trouve que ça coïncide avec un espèce de parcours de lecture de la Torah qui se termine à Soukhot. Donc à Soukhot, en un an, on a lu la Torah. Et du coup, on a fini de la lire. Et là, on va faire un truc de dingue. On va danser avec la Torah. C'est pas danser comme nous, on danse et tout, tu vois. C'est pas danser comme les Blancs. C'est danser sérieusement avec la parole de Dieu. C'est trop bien, je sais pas si vous avez déjà fait ça. Il y a plein de trucs compliqués dans la Bible, mais se dire qu'on a le cadeau d'avoir sa parole, qu'on peut lire tous les jours. Hier, avec mes sœurs, on se disait, quand tu as vécu à l'époque de Jésus, tu devais juste entendre le message et tout retenir. Alors que nous, on peut lire, relire, re-relire, dans plein de traductions, surligner, découper, faire des tableaux. Et, là. Et ça, c'est génial quand même. On a la Bible avec nous et on peut l'utiliser et tout. Elle est où ma Bible ? Voilà. Et on danse avec, quoi. Vraiment, on explose de joie, on fait des chorégraphies avec la Torah. Enfin, voilà, c'est vraiment la joie d'avoir la parole de Dieu. Y a une autre chose dans la fête des tabernacles, c'est que tous les soirs, chaque soir, on reçoit un visiteur. Alors, il y a 7 petites cases et ça représente 7 patriarches. Donc le premier, c'est Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, David. Et le 8e soir, il n'y a pas de case parce qu'en fait, symboliquement, on reçoit le Messie. Donc pendant ces 8 jours, les Juifs, tous les jours, ils reçoivent un invité. Alors, je pense qu'il y a plein de manières de l'interpréter ou de le vivre. Mais moi, je trouve que ça peut être intéressant de se dire, ok, ce soir, qu'est-ce que Abraham aurait à me dire sur Dieu? Ou s'il était là, qu'est-ce que je lui poserais comme question? Ou peut-être si vous êtes en famille, ben, y en a un qui peut jouer Abraham et dire, eh ben moi, mon fils, et puis tu racontes des trucs, je sais pas. Enfin, en tout cas, rencontrer des personnages bibliques qui vont nous parler de leur expérience. Voilà, donc chaque jour, il y a un invité différent. Je crois que c'est en arménien que le mot, du coup, c'est « oujpizin ». Bon, je ne sais pas pourquoi c'est en arménien. Bon, ok. Alors, dernier truc, le plus essentiel, c'est la cabane. Cette cabane qui représente le fait que pendant 40 ans, le peuple de Dieu a vécu comme ça, dans la galère, mais dans la dépendance à Dieu. Alors cette cabane, cette souka, pour qu'elle soit cachère, il faut qu'elle soit à l'extérieur, construite en bois, en branchage, que ce soit pas complètement fermé, qu'on puisse un peu voir les étoiles, et que s'il pleut, que ça puisse tomber dedans. Parce que vraiment, c'est obligatoire qu'elle soit fragile, en fait. Si c'est un truc trop en dur, en béton, ou trop bien fixé, en fait, ça ne représente pas assez la galère qu'on a vécue pendant 40 ans. Il faut que ce soit fragile, il faut que ce soit peuplé par des branchages, des fruits, des grenades, certaines plantes et tout ça, pour représenter aussi l'abondance de tout ce qu'on a récolté et le fait qu'on attend de la pluie pour à nouveau continuer dans l'abondance et la grâce de Dieu qui continue de nous donner le fruit de la terre. Voilà, elle est décorée, on peut mettre plein de choses dessus. Il y a même quatre espèces de branchages qui sont censées représenter quatre, on va dire, types de personnes, quatre factions, quatre genres de personnes. Parce qu'il y a, sur ces quatre, il y en a une qui a du goût et de l'odeur. Une qui a du goût mais pas d'odeur. Une qui a de l'odeur mais pas du goût. Une qui n'a ni odeur ni goût. Et c'est comme si c'était censé représenter les hyper spirituels. Ceux qui le sont un peu moins, et pas du tout. Et ce qui est intéressant chez les Juifs, c'est qu'il y a cette idée qu'on est tous ensemble devant Dieu. Même celui qui n'a ni odeur ni goût, en fait. Tout ça, c'est le peuple de Dieu. Enfin, c'est vrai, il n'y a pas un tri, en tout cas, dans le peuple juif. Ils sont tous, tu vois, le peuple élu, choisi. Et nous aussi, qu'on soit hyper à fond, un peu moins dans une période compliquée ou complètement à plat, on est tous concernés par cette fête, par notre Dieu, et même entre nous, on ne doit pas juger les autres, on est ensemble en fait devant Dieu, et on se soutient aussi, il n'y a pas juste un club VIP pour ceux qui sont hyper spirituels, c'est vraiment tous ensemble quoi. Et donc voilà, le but de cette cabane fragile, c'est de se souvenir qu'il y avait vraiment la protection de Dieu et sa présence dans cette fragilité. Et ça nous parle de Jésus dans plusieurs aspects. Si tu peux mettre la prochaine, Romain, s'il te plaît. Alors Jésus... Ah oui, non, pardon, je voulais montrer des cabanes. Voilà, c'est des exemples sur des balcons. Tu peux mettre celle d'après. On met des plantes dans la rue, tout ça. Tu peux mettre celle d'après, là, c'est même sur un balcon. Et puis la suivante. Et ça, c'est une méga souka pour ceux qui n'ont pas la place d'en avoir une chez eux. Donc si vous vivez dans 20 mètres carrés et que vous n'avez pas de balcon et tout, ben en fait, tous les jours, vous allez dans cette souka pour manger. Dormir, je ne pense pas, mais en tout cas, voilà, y a une souka collective pour ceux qui ne peuvent pas en avoir une chez eux. Et ils le font vraiment, tu sais, c'est-à-dire les enfants, tous les soirs, ils mangent. Parfois, il y a certaines familles qui dorment dans la souka pendant 8 jours. C'est une vraie expérience, quoi. Et donc, ça nous parle de Jésus, premièrement parce que... Vous vous souvenez cette cérémonie de l'eau, là ? Jésus, le huitième jour, donc le huitième jour qui est aussi celui où on attend le Messie, il dit « Je suis ». Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient debout et s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça, c'est dans Jean 7, du verset 37 à 38. C'est pendant la fête de Soukhot. Donc, si on est habitué, comme nous avec Noël ou la Sainte-Seine, on est habitué à vivre ça tous les jours de notre vie, on sait qu'il y a cette cérémonie de l'eau et le huitième jour qui représente celui du Messie. Tout d'un coup, il y a Jésus qui dit « C'est moi, la source d'eau vive ». Et du coup, les gens, ils commencent à jaser. On lit plus loin dans Jean. Mais attends, mais est-ce que c'est le Messie ? Enfin, pour eux, ça avait vraiment du sens. Nous, on le lit comme un verset, comme un autre. Mais en fait, ça s'inscrit dans cette tradition-là. Donc, ça a énormément de sens pour les gens de l'époque. Il est en train de dire, c'est moi, la pluie, qui va vous donner l'abondance. C'est moi, l'eau, où vous pouvez vous ressourcer. Et vous n'aurez plus jamais soif si vous buvez mon eau. C'est très fort, il nous parle, mais c'est même un accomplissement des prophéties. Enfin, il y a plein de passages qui parlent de Jésus comme l'eau, tu vois, comme la source de vie. Par exemple, Joël 3, verset 18, « Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. » Dans Zacharie 14, verset 8, « Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera, une moitié vers la mer morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. » Donc, Jésus, cette eau vive pour nous, il s'est associé à Soukhot dans cet aspect-là. Quand tu vois l'eau versée, ben c'est Jésus, ton eau, qui te rafraîchit et qui te donne à boire pour ton âme, pour que tu n'aies plus soif, pour te donner la vraie eau. C'est ça. Alors, c'était l'image de Jésus avec la femme samaritaine, parce qu'il a en partie parlé de ça, de l'eau. Enfin, c'est moi l'eau, quoi. Si tu veux mon eau. Voilà. Alors, Jésus, dans cette fête de Soukhot, c'est aussi la lumière. Quand on disait les lampes à huile sur le tabernacle, c'est lui, la lumière. Et pour le coup, cette présence, elle n'est pas juste à un endroit dans le monde, à Jérusalem, dans le temple. Elle est là, elle est là. Elle est là, et cette lumière, elle brille pour tout le monde. Il y a des lampes à huile partout ici. Si on avait des yeux spirituels, là, ce serait lumineux, parce que Jésus réside en nous. Enfin, si vous avez son huile, il est là, quoi. Et il dit d'ailleurs, c'est aussi dans Jean 8, donc ça se passe aussi pendant la fête de Soukhot. Tout à l'heure, je disais Jean 7 par rapport à l'eau, je suis l'eau vive. Et dans Jean 8, il dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc c'est aussi pendant Soukhot qui choisit de dire ça. Et donc les gens, ils font un lien instantané. Ah ouais, la lumière du temple, depuis toute la grande fête, là, en fait, il est en train de nous dire, c'est moi la lumière. Donc ça, voilà, ça s'inscrit aussi dans cette tradition, et du coup, ça a plus de sens. Si moi j'avais vécu ça, je pense que tout d'un coup, cette parole, elle prendrait, waouh, une autre dimension. Jésus, il dit aussi qu'il est le roc. Quand on fonde sa maison sur lui, c'est pas une petite tente de seconde que tu peux déplacer comme ça, quoi. T'es fondé sur le roc, le vrai roc. Et c'est une maison éternelle. Donc quelque part, de vivre pendant 7 jours dans une petite maison fragile, ça nous rappelle que spirituellement, on n'est pas dans une maison fragile qui s'envole s'il y a du vent et tout. On est fondé sur le roc, dans une maison éternelle, et on a la paix pour nos âmes, pour l'éternité. J'ai pas besoin de me dire tous les matins, oh, mince, comment je vais faire, il pleut, faut que je plante mes sardines, et je sais pas quoi. Non, t'es fondé sur le roc pour l'éternité, sur celui qui est le plus solide du monde. Comme il disait là, les petits vaudous, le boss, t'es fondé sur le boss pour toujours. Une vraie maison, quoi. Même un temple, enfin une ville, quoi. Enfin, bref, un truc trop solide. Et donc un autre aspect où on peut reconnaître Jésus aussi, vous vous souvenez, le dernier jour, Simchat Torah, les Juifs dansent avec la parole. Et donc le dernier jour, le 8e jour, le jour du Messie, les Juifs dansent avec la parole. Et c'est qui la parole? C'est Jésus. Le 8e jour, celui du Messie, on danse avec la parole. Donc je sais pas, moi je me demande dans quelle mesure, si je fête Soukhot, le 8e jour, comment je peux danser avec la Bible, mais avec Jésus qui rend la Bible vivante, danser avec lui, me réjouir pour lui, et faire une choré pour Jésus. En tout cas, enfin célébrer le fait qu'il soit la parole incarnée, la parole chair, la parole qui est vivante et qui ne fait pas que dire des mots, mais qui les accomplit en même temps qu'elle les dit, une parole réma, quoi, vraiment vivante. Donc, bon, je pense qu'il y aurait d'autres choses à dire, d'autres choses dans Soukhot qui nous montrent Jésus. Moi, je voulais accentuer sur cet aspect-là de la fête, le fait que ce soit une grande fête de joie de la fragilité. Le fait que tout ça, là, ce soit pas du tout solide et que ce soit un peu la galère. Tu peux mettre l'image d'après. Donc c'est comme une ode à la fragilité Soukhot. On va c'est la fête, the fête, où on va se réjouir d'être fragile. Et bon, je pense que je pensais à ça tout à l'heure, comme on a dit, de se dire que dans cette petite fragilité, je porte la gloire de Dieu. Amen. Sur ma petite tente pourrie, il y a la gloire de Dieu. Dans ma vie compliquée, il y a la gloire de Dieu. Je trouve ça génial de se dire qu'avec Soukhot, on fait un exercice concret où tous les jours, on va manger, dormir dans une tente, peut-être qu'il va pleuvoir, on va regarder les étoiles, ça se trouve on a froid, enfin je sais pas s'il fait froid en Israël en ce moment, mais en tout cas si on le faisait ici, ce serait un peu galère là, 15 degrés, moi qui reviens du Bénin, c'est horrible. Enfin en tout cas, on va vraiment faire l'exercice concret de pas être installé dans notre confort habituel où j'ai mes chaussons, mon peignoir, ma bouilloire et tout ça, tu vois. Tu vas faire vraiment l'exercice d'être un peu dans la galère de la souka. C'est ça le but, pour te rappeler qu'on avait vécu comme ça, enfin que le peuple de Dieu a vécu comme ça pendant 40 ans dans le désert. Et voilà, et du coup, bon, moi je me suis dit, finalement, peut-être ça, je le fais tous les ans sans le savoir, quand je vais faire du camping avec ma famille. Parce que les Brousse, donc ma famille d'origine, on est un peu des pros du camping. Tu vois, mes parents, c'est même des anciens marginaux. Ils ont fait de la débrouille toute leur vie. Ils voulaient moins payer l'électricité. Du coup, ils mettaient une petite aiguille pour que le disque tourne plus lentement, pour que quand EDF vient prendre le relevé, en fait, il n'y a pas beaucoup d'argent à dépenser. Ils ont squatté des maisons pour aller chercher de l'eau. Bah, ils faisaient le mur la nuit pour remplir des seaux et pouvoir avoir de l'eau le jour à côté. Une fois, ils ont même fait des travaux dans la rue pour faire genre, c'était la mairie qui installait, qui raccordait les tuyaux et tout. Enfin bon, bref, tu sais, ils sont calés en débrouille, quoi. Ça, c'est la famille d'où je viens. Et ça, c'était avant, ouais. Claire, elle précise. Oui, parce qu'il y a mes sœurs, là, les deux belles gosses. Si un jour vous les rencontrez, ils ont plein d'histoires comme ça de débrouille. Donc forcément, qui dit vacances chez les brouilles dit camping. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, moi, je suis mariée avec quelqu'un qui n'aime pas le camping. Maëlle, il dit, le camping, c'est vraiment un truc de blanc. À quel moment tu te lèves le matin, tu te dis, tiens, moi, je ferais bien des vacances dans la galère. Tiens, moi, je vais payer, parce que ça coûte cher en plus. Je vais payer pour avoir mal au dos, pour avoir froid, pour entendre tous les enfants du camping qui pleurent, pour devoir faire ma vaisselle et faire, je sais pas, 100 mètres, enfin, tu sais, pour pas avoir mon café, mon chocolat, mon machin, enfin, c'est un truc de blanc. En tout cas, lui, le camping, ça marche pas. Mais nous, les brousses, on aime bien le camping. On aime bien le camping parce que, tout d'un coup, tu sors de ta zone de confort et t'es un peu obligé de voir les choses différemment. T'es obligé, du coup, de pas avoir tes chaussons, ton peignoir, mais de te satisfaire de ce que t'as. T'es un peu obligé, du coup, aussi, de faire les choses ensemble, quoi. T'as pas ta petite chambre privée où tu peux t'enfermer et tout. Et t'es en collectif. Et du coup, ça invente une autre modalité. Du coup, ça invente aussi des nouvelles conversations que t'aurais pas si t'es tout le temps chez toi, dans ton salon, ton canapé, avec tes habitudes. Ça te sort de ta zone de confort pour vivre des choses différentes. Et aussi pour être plus dépendant. Tout d'un coup, si en camping, on n'a plus de gaz, je sais pas, moi, je sais pas faire du feu, en fait. ça veut dire que tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, il te manque plein de choses. Tout ce que tu as chez toi d'habitude dans ton confort. Et tu es content à la fin de la semaine de camping de rentrer chez toi. Les vacances continuent, en fait. Tu dis, waouh, un matelas, c'est trop bien. Enfin, en fait, d'avoir perdu ton confort, tu réalises aussi la préciosité de ce que tu avais. Et quand tu n'es pas dans ta situation de confort, tu es obligé de dépendre des autres, de Dieu, de mince, j'ai oublié un truc, ça va nous manquer pendant 2 semaines, ça va être trop galère. Tout d'un coup, tu réalises même l'ambivalence du confort, parce que quand tu es dans le confort, tu te poses pas de questions, tu as tout et tu ne te rends pas compte de l'importance de ce que tu as. Donc c'est une occasion aussi d'être proche de la nature. Si tu fais ça dans des coins magnifiques, tu ouvres ta tente le matin, tu vois la montagne, tu vois la grandeur de la beauté de la nature, enfin, c'est vraiment, ça te change de ton paysage d'habitude. Et c'est aussi presque une manière, du coup, de rencontrer Dieu autrement. Enfin, moi, je trouve que ces semaines de camping ou de soukhot, elles t'invitent vraiment à dépendre plus de Dieu que quand tu as tout ce qu'il faut, tout ce qui meuble ou qui comble le besoin de Dieu, tout ce qui, on pourrait dire, empêche, en fait. J'ai fait les scouts quand j'étais jeune et des fois, on se mettait un peu dans des situations de galère. C'est pas qu'on voulait tenter Dieu, c'est juste qu'on fait une rando et en fait, on a oublié des trucs, on n'a plus de boussole ou plus de téléphone et c'est la nuit et on est 15 à marcher en file sur une montagne escarpée, on sait pas où on va. T'es obligé, dans ces conditions, de dire « Mais Seigneur, aide-nous, on sait pas où c'est, on n'a plus d'eau. » Enfin, t'es obligé de faire appel à lui. Alors que si on était dans nos canapés, on serait pas obligé de faire appel à lui. Donc quelque part, on crée des conditions pour avoir besoin de Dieu. Bon, je me dis, tu vois, dans le désert, enfin, il y avait la nuée, le feu, la manne, enfin, il y avait plein de miracles, en fait, qui entouraient cette vie de galère. Et du coup, ben, Soukhot, c'est l'occasion de se rappeler que ce Dieu-là, c'est le nôtre, et que quand on est en galère, il sera là pour te donner ta manne tous les jours. Il sera là pour te guider avec sa nuée, pour te protéger avec son feu. Et en fait, la galère, je pense qu'elle est nécessaire. Parce que sinon, des fois, on n'a pas besoin de Dieu. Je sais pas, enfin, si tout roule et qu'on a tout, ben, on n'est pas forcément en manque. On n'est pas là sur cette rando, je t'en supplie, Seigneur, sinon on va mourir. Enfin, t'es obligé de crier à Dieu et d'avoir besoin de lui, en fait. C'est comme les épreuves dans notre vie. Si on n'en a pas, bah on peut rouler, tu sais, on est comme les autres en fait, ça va, enfin on se débrouille, pour peu que tu sois bien entouré, que tu as un revenu moyen et tout, c'est bon, tu vas te débrouiller. Mais quand tu es vraiment dans des épreuves, et je ne parle pas que financières et matérielles, aussi émotionnelles, spirituelles, enfin je sais pas, plein de choses, quand tu es vraiment en galère, c'est là aussi que tu cries vraiment à Dieu et qu'il vient parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Il y a plein de gens qui rencontrent Dieu parce qu'ils sont en galère, parce qu'ils sont dans des conditions où ils n'ont plus rien. Et quand ils n'ont plus rien, ben, tout ce qui leur reste, c'est se tourner vers Dieu. Et nous qui avons des vies confortables, je pense que, enfin moi je le dis pour moi vraiment, j'oublie du coup que j'ai vraiment besoin de Dieu. Donc le camping de nos vies, ça veut dire ben, les galères dans nos vies, c'est nécessaire pour avoir besoin de Dieu. Et aussi pour se rappeler qu'en fait, on est fragile, qu'on n'est pas des super temples fourvières magnifiques, tout doré et tout. En fait, on est hyper fragile. Quand on a des épreuves, ben, bam, ça te met un petit coup dans les jambes et tu dis, ah ouais, en fait, je ne suis pas mieux que les autres. Enfin, moi aussi, je galère. Moi aussi, j'ai passé des soirées à pleurer. Moi aussi, je suis en souffrance. Les choses, elles m'affectent de fou. Je n'arrive pas à m'en sortir. Et moi aussi, j'ai terriblement besoin de Dieu. Et ce besoin, je pense qu'il est même salvateur. Je pensais à Paul qui parle de son écharde. Si tu veux mettre l'image d'après. Je sais pas si c'est là. Bon, ça, c'est le camping. Paul, il dit, d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Quelle déclaration de malade! Est-ce que moi, je suis capable de dire, bah, je me vante de ma tente, je me vante de ma vie de camping, parce que c'est dans ma faiblesse, dans ma fragilité, que Dieu accomplit sa puissance. Amen. Est-ce qu'on est capable de dire, merci Seigneur pour mes épreuves? Est-ce qu'on est capable de se réjouir, parce que Paul, il parle d'une joie. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse. Est-ce qu'on est capable d'être festif et joyeux parce qu'on est en galère. Ça m'a fait penser à un proverbe qui dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Mon humilité, c'est elle qui va accueillir la gloire de Dieu. C'est ma tante fragile qui va accueillir la gloire de Dieu. Ce n'est pas un temple parfait, construit, qui montre qu'on connaît tout et qu'on est sûr de nous. C'est l'humilité, la fragilité qui va accueillir la gloire de Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez répéter après moi ? Merci Seigneur pour mes déserts. Merci Seigneur pour mes galères. Mes galères précèdent la gloire. Mon camping précède la gloire. Dans vos vies, la gloire de Dieu et sa puissance peut et va se manifester dans vos galères. Si on voit les choses comme ça, c'est dangereux, mais j'ai presque envie de dire, « Ok Seigneur, fais-moi galérer. » Si dans les galères, il y a ta gloire, tous ces miracles qui sont visibles aussi pour les autres, si dans ma fragilité, on peut voir ta puissance, bon, bah ok. Je crois que je n'ai pas très envie d'être un temple somptueux, j'ai plutôt envie d'être une tente fragile ou une cabane vulnérable. J'ai envie que dans ma vie, comme sur ce toit de la souka, j'ai envie que la pluie puisse rentrer dans ma vie. Je ne veux pas être hermétique à la bénédiction, aux besoins de Dieu. J'ai envie que ça puisse couler dans ma vie. Mais ça veut dire en fait, j'ai envie d'avoir des galères, j'ai envie de vivre du camping dans ma vie pour que Dieu puisse, sa bénédiction puisse venir. On est des vases d'argile qui avons l'honneur de porter la grande et magnifique gloire de Dieu. Dans nos petites vies brisées, dans nos petites prises de tête de couple, dans nos galères avec nos enfants au travail ou les trucs cassés chez nous, il y a la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et je pense que cette fragilité, cette vulnérabilité, bon, je pense qu'elle est essentielle pour nous parce que, en fait, c'est là, du coup, qu'on va pouvoir rencontrer Dieu. Je pense qu'elle est aussi essentielle pour Dieu, que Dieu, il cherche des gens humbles de cœur. Que Dieu, il n'a pas choisi les disciples, tu sais, les pharisiens qui savaient tout. Il a pris des nuls. En fait, il a pris nous, il a pris des gens nuls. Il a pris des tentes, il n'a pas pris des temples. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, Dieu, il cherche, en fait, des gens qui sont d'accord de dire « Ouais, je suis cassée, je suis fragile. » Sinon, il ne peut pas venir. Si tu es tout rempli d'orgueil et gonflé, il ne peut pas s'infiltrer. Il n'y a pas de place pour lui. Vous avez sûrement regardé The Chosen. On voit dans la série que les disciples, ils sont paumés. T'sais. Ils ne comprennent rien. Ils parlent d'un truc, mais ils sont à côté de la plaque et tout. Mais je pense que Dieu, en fait, il veut des gens qui sont fragiles et qui sont perdus et qui ont juste désespérément besoin de lui. Parce que chez ces gens-là, il va pouvoir manifester sa puissance. Et je me suis dit aussi, je pense que c'est nécessaire pour les autres. Si moi je suis fragile, quelque part je pense que ça vous rend service. Parce que du coup, déjà on va pouvoir avoir compassion les uns des autres. Vous n'allez pas me mettre sur un piédestal. Vous allez voir qu'on est pareil et qu'on est une famille. Et qu'on a tous besoin de Dieu. Et du coup, dans ma fragilité, je suis aussi plus capable d'être à l'écoute. Si moi aussi j'ai connu des galères, je peux comprendre la tienne. Et puis celle du monde en fait, je peux m'associer aux gens. Plutôt que d'être, dans une assurance de nos convictions, on sait où on va, on sait qui on est, les chrétiens dans le monde et tout. Enfin, évidemment, on a une identité, hein, je ne dis pas ça, hein, c'est net et c'est ancré sur le roc, comme on disait tout à l'heure. Mais notre vulnérabilité, moi, je pense que du coup, elle peut aussi rejoindre les gens. Et que les autres, ils ont besoin que je me reconnaisse fragile. Et la magie de Soukhot, c'est que tout ça, c'est une raison de joie. De se livrer à la joie pendant toute la fête parce que je suis fragile. Je trouve ça fantastique comme concept. Je ne sais pas si demain ou dans les jours qui suivent, vous pouvez faire ça. Vous pensez à vos problèmes et vous vous réjouissez. Vous dansez, vous faites une cabane avec vos enfants. Enfin, en tout cas, voilà quoi, c'est une raison d'être heureux que d'être fragile. Alors, je voulais vous proposer de prendre la Sainte Seine en petite souka. J'ai fabriqué des petites soukas. Il faudrait des portes... Oh, oh bah. Attendez.
En prenant ce pain et ce vin, nous reconnaissons que Jésus-Christ est mort pour nous. Nous reconnaissons que par son corps brisé, par son sang versé, nous avons le salut pour nos âmes. En le prenant, nous nous remémorons son sacrifice et nous proclamons un Jésus-Christ crucifié jusqu'à ce qu'il revienne. Thank you.
Merci.